Bien. Alors, je vais vous parler 10h18, c'est bon. Je vais vous parler de Watchmen et de la construction fictive, imaginaire, fantasmée de l'identité dans cette œuvre, et particulièrement pour le cas Rorschach, même si je prendrai quelques autres exemples, Ozymandias, le comédien, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut commencer, enfin, du moins ma formation m'invite à le faire. Il faut commencer par le chapitre 16 du Léviathan, donc la toute fin de la première partie pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre. Et donc une citation de Hobbes lui-même qui nous dit que le mot personne est latin. Persona signifie le déguisement ou l'apparence extérieure d'un homme imité sur la scène. Quelquefois aussi, il signifie plus spécifiquement le déguisement de la figure, le masque ou le loup. Donc on rejoint ce que disait Siegfried. Et donc, il continue, personnifier, c'est tenir un rôle ou représenter soi-même un autre. Il y a donc une différence entre l'acteur, qui est celui qui est représenté, et l'auteur, celui qui représente le représenté. Il est évident que Watchmen, qui arrive donc en gros l'année 1986-1987, à cheval, puisqu'il est publié en 12 chapitres, en 12 temps. Il est évident que Watchmen arrive après quasiment 50 ans de comics, puisque Superman, le premier Superman a été publié en 1938. Donc Watchmen a 50 ans de comics derrière lui, et connaissant un peu, quasiment 50 ans, et connaissant Alan Moore, qui réfléchit ses supports, qui réfléchit ses œuvres de manière approfondie, il est évident qu'il va jouer, là-dessus. Et il va jouer là-dessus parce que justement, les premiers Watchmen, en tout cas ceux qu'on appelle les Minutemen, les premiers Watchmen arrivent justement dans les années 40. C'est ce qu'on a appelé l'âge d'or ou le Golden Age du comics dans les années 40 et jusqu'à l'apparition de Spider-Man, le premier héros qui a des faiblesses. C'est-à-dire que Superman est un héros relativement monolithique. Il y a des méchants, il y a des gentils, on se tape dessus et voilà, tout se passe bien. Spider-Man va introduire des premières faiblesses, puisque Spider-Man est dans la vraie vie, donc Peter Parker, cet homme légèrement timide et puis en fait quelque peu asocial, quelque peu inadapté. Et il présente donc les premières faiblesses du super-héros. Donc c'est ce qu'on appellera, en tout cas on considère en général que le Silver Age, donc l'âge d'argent du comics, arrive avec Spider-Man. Watchmen, lui, on considère. Encore une fois, on pourrait discuter, qu'il ouvre l'Iron Age, donc l'âge de fer. Bon, je vais le dire en français parce que l'accent va finir par me trahir. Donc on considère en général que Watchmen ouvre l'âge de fer du comics. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnages sont absolument horribles et ont des problèmes insondables. En fait, là où on dit souvent que Superman est un Boy Scout, le gendre idéal ou quelque chose comme ça, Watchmen présente des personnages qui sont tous finalement beaucoup plus torturés que la moyenne de chacun d'entre nous. En tout cas, j'ose l'espérer. Et ça va se voir particulièrement pour Rorschach. Rorschach qui est quand même globalement un psychopathe sanguinaire, même si il est très attachant, ce qui est assez intéressant. Bref, Watchmen, puisqu'il a une déjà longue histoire du comics derrière lui, va pouvoir ouvrir un nouvel âge en faisant retour sur le comics en général. Et on peut lire Watchmen, il me semble, comme en regardant les personnages comme des personnages de personnages, c'est-à-dire des auteurs ou des masques pour d'autres icônes qui existent dans ce qu'on peut appeler la pop culture, pour aller vite. Et donc on peut lire Watchmen comme ça. Et il y a donc, il me semble, dans Watchmen, un intérêt tout particulier à prêter attention aux masques. D'abord parce que c'est une bande dessinée, et donc il y a une image sans arrêt, une image qui est renvoyée au lecteur, en plus du discours, en plus des phylactères. Et ensuite, justement, à cause de cette histoire particulière qu'il a derrière lui. Pour ne donner qu'un exemple, par exemple, Ozymandias, à la fin, en fait, se moque de ces deux contradicteurs, ces deux adversaires, qui n'en sont pas vraiment puisqu'ils sont bien inférieurs à lui, donc Rorschach et le hibou, deux. Il leur dit que il n'est pas un méchant de, il n'est pas un méchant de BD, et il leur dit, il leur fait remarquer avec un peu d'ironie que il va quand même pas révéler son plan démoniaque s'il avait une seule petite chance d'échouer. Donc il a déjà mis en place son plan démoniaque et on sait que les personnages ne peuvent pas l'arrêter. Il dit aussi au hibou de grandir un peu quand celui-ci propose de régler les problèmes en tapant très fort et en allant lutter contre les justiciers. Il y a donc évidemment des références aux comics. L'idée est de dire, bon, vous êtes gentil avec vos héros qui ont des gros bras, mais il est évident que ça ne peut pas suffire. Donc, jeu sur la personne, mais jeu sur la personne à plusieurs niveaux. D'abord parce que les personnages principaux, les Minutemen, et puis ensuite leur suivant, portent des masques, que ce soit le hibou, que ce soit Rorschach, que ce soit le spectre soyeux. Alors vous prêterez attention aux noms qui sont quand même assez délicieux. Le spectre soyeux, c'est, ou la silhouette, quand on voit à quoi il ressemble, c'est assez intéressant. Et j'aimerais montrer justement que tous ces masques, tous ces personnages, tous ces. Qui s'enchaînent, j'aimerais montrer que, et notamment avec le cas Rorschach, j'aimerais montrer que ces personnages sont dans une quête identitaire et en fait où ils construisent leur identité par ce costume, par le masque. Et donc il y a un jeu graphique permanent pour montrer, pour essayer de s'auto-prouver, pour essayer de performer, si on veut, leur propre identité. Et il me semble que c'est particulièrement saillant, en tout cas particulièrement intéressant dans le cas Rorschach, parce que on peut penser, en premier lieu, que c'est un personnage entier. Quand on pense à Rorschach, on pense à un psychopathe déterminé qui a une idée et une seule en tête et qui ne dévie jamais de sa route. J'aimerais montrer que c'est largement, on fantasme largement cette construction parfaite, ce personnage monolithique, alors qu'en fait, il présente des failles lui-même. Et donc, on pourrait évidemment relier ça à des problématiques identitaires, des problématiques existentialistes, comme il peut en exister chez Kierkegaard dans le Traité du désespoir. Cette idée qu'il est à la fois difficile de devenir ce que l'on est, et à la fois parce qu'il y a une tension avec l'envie de devenir ce qu'on n'est pas. Et il y a toujours cette tension entre, d'une part, essayer de devenir ce que l'on n'est pas, et d'autre part, essayer de devenir ce que l'on est. Il y a évidemment une tension parce que soit on ne l'est pas encore, soit on l'est déjà, mais on essaye de s'en détacher. Et j'aimerais montrer que Rorschach est typiquement là pour ça. Alors ça se voit déjà pour d'autres personnages, par exemple le hibou. Alors le hibou qui, assez curieusement, est un homme bedonnant, un peu sur le retour, on va dire, qui n'arrive pas, par exemple, à faire l'amour sans son costume et qui n'arrive finalement à faire l'amour que au moment où il est habillé en hibou. Donc le grotesque de la situation nous fait penser que tous ces personnages ont quand même un sérieux souci, alors que ce sont des héros, qu'ils ont des gadgets fabuleux, enfin fabuleux, du moins des gadgets, à la manière d'un Batman ou d'un autre personnage. Et il est d'ailleurs intéressant, puisque je parle de Batman, de penser à The Dark Knight, qui est contemporain de Watchmen. Alors, bon, je le dis par parenthèse, je laisserai de côté le Docteur Manhattan, qui est un cas tout à fait spécial, puisque c'est le seul vrai super-héros, en tout cas c'est le seul qui a de vrais super-pouvoirs, même si Ozymandias arrête les balles à main nue. Mais d'une manière générale, c'est Manhattan qui est vraiment le super-héros par excellence. Mais je m'arrêterai plutôt sur Rorschach, puisque c'est typiquement lui qui porte un masque changeant, et qu'on le connaît particulièrement. Alors pourquoi il est intéressant, Rorschach? D'abord parce qu'il apparaît comme le personnage principal. Je suppose qu'on ne me contestera pas ça. On commence avec son journal. Hein. Au journal, ça commence par ses phylactères jaunis ou brunis, selon l'édition que vous avez, où Rorschach raconte ce qui se passe, dans son journal. Autre chose intéressante, il finit aussi l'histoire, puisque un personnage un peu boutonneux, d'adolescent, qui travaille visiblement dans une rédaction, ce personnage trouve le journal de Rorschach et cela clôt le roman graphique d'Alan Moore et de Gibbons. Alors pourquoi c'est le personnage principal? Parce qu'il occupe l'essentiel du chapitre 5 et 6, donc je rappelle qu'il y en a 12, donc les chapitres centraux. Je rappelle aussi qu'il est le lien entre les différents masques, d'abord parce qu'il les appelle les masques. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On ne voit pas très bien, mais en gros, ce que j'ai entouré en rouge, il dit que c'est dans le chapitre 1, et il dit que je crois qu'il s'agit d'un tueur de masques, et c'est le premier, donc Rorschach, le premier à désigner les Minutemen, les héros, par le terme de masque. Et c'est le premier à nous présenter les personnages principaux, si on peut les appeler principaux, puisque dans le premier chapitre, il enquête sur le meurtre du comédien, donc on a déjà vu. Il va voir le hibou, enfin l'ex-hibou 2. Il va voir Ozymandias, qui est lui, Adam Veidt. Il va voir Dr. Manhattan, il va voir le spectre soyeux, et ainsi de suite. Donc il fait le lien entre les personnages, il est un petit peu le messager d'une autre époque. Et en même temps, il pousse le hibou 2 et le spectre soyeux 2 également à reprendre du service, et ainsi de suite. Autre élément. Merci. Autre élément qui nous dit qu'il est le personnage principal, il est le seul à avoir continué ses activités, malgré le Keen Act, qui serait quelque chose comme, si quelqu'un connaît Civil War, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'une loi est passée pour interdire et recenser les masques, et seuls les masques qui travaillent pour le gouvernement sont autorisés, donc à savoir le comédien, donc qui meurt au tout début, et, enfin qui est mort en fait déjà au tout début, et le docteur Manhattan. Mais Rorschach continue son activité en freelance, si on veut. De toute façon, je ne vois pas comment il pourrait faire équipe avec quelqu'un, en tout cas qui vient du gouvernement. Mais donc c'est le dernier, en quelque sorte, le dernier masque qui en circulation. Le dernier masque au sens premier du terme, au sens premier qu'il a dans Watchmen. À plus d'un titre, il est un personnage parfaitement entier. Alors, je ne sais pas si on peut s'identifier à lui, mais au moins, on a l'impression qu'il est extrêmement droit dans ses bottes, si on veut, dans le sens où il a un credo et qu'il s'y tient, et qu'il voit le monde de façon relativement binaire, puisque en gros il parle de blanc et de noir, et au milieu, point de salut. Alors, pour rappeler son credo, justement, alors bon, j'ai la version française, je vous invite à regarder la case centrale, parce qu'il y a le bien et le mal doit être puni, même face à l'Armageddon, je ne céderai pas là-dessus. Mais ils sont nombreux, si nombreux à mériter leur châtiment, et il reste si peu de temps. Bon, ça montre un petit peu cette espèce de monomaniaque qu'est Rorschach. Je trouve vraiment intéressant qu'on les fait comme une espèce de psychopathe, parce que justement ça rompt avec les codes habituels du comics où le héros, malgré ses défauts, est un héros. Je veux dire, en se replaçant dans le contexte de Watchmen. Aujourd'hui, ça s'est plus fait, mais dans le contexte de Watchmen, c'était assez novateur. Donc, on ne fait pas de compromis. Armageddon, même si l'Armageddon devait arriver, ce qui arrive évidemment à la fin. Sinon, il y a toujours un jeu dans Watchmen de Prolepse, Analepse, tout le temps. Il y a tout le temps des rappels et des renvois à d'autres éléments du comics. Mais donc, ce Rorschach paraît tout à fait entier. Alors, pour le blanc et le noir, il y a le moment où il fait son masque, où il coud son masque. Alors il faut savoir que c'est dans une robe commandée par Kitty Genovese, bon ça n'a pas de grand intérêt, mais donc cette robe a des motifs noirs et blancs, bougeants, changeant de forme, mais pas de mélange, pas de gris. Je crois que ça dit bien le manichéisme du personnage, enfin, en tout cas le manichéisme des intentions de Rorschach, et donc il nous apparaît que c'est le personnage le plus entier, le plus droit, etc. On ne peut pas faire plus net, plus clair. Il apparaît comme celui qui est jusqu'au boutiste, et ainsi de suite. À l'inverse, Veidt s'est dévoyé, puisque, comme le dit Rorschach, alors il le dit ici, comme le dit Rorschach, Veidt a fait des figurines à son image, il a fait des posters, il a fait des parfums, etc. Donc il a dévoyé son image. Dans la planche d'après, on voit des poupées du genre Ken à l'image de Veidt, qui a l'air légèrement narcissique. Le comédien, lui, est mort, même si c'était l'homme le plus entier de tous. Et c'est le modèle de Rorschach. Alors, deux exemples. Il nous dit que lui, il admirait ça. D'ailleurs, voilà, j'ai admiré l'entièreté du comédien. Sauf comédien, rencontré 1966, personnalité forcenée, s'en fout qu'on l'aime, intransigeant, j'ai admiré. C'est ça qu'il admire. Deuxième élément qui nous dit qu'il aime le comédien. Je crois qu'une analyse du comédien serait intéressante aussi, mais bon, ici on n'a pas le temps. Deuxième case, bon, c'est intéressant aussi puisque jamais monté, donc il critique Veidt et il dit si ça fait de lui un nazi, tu peux aussi bien dire que je suis un nazi. Alors Veidt est dubitatif sur cet dernier exemple et il est intéressant la pointe d'humour ici puisque il est clairement en train de se demander si Rorschach est effectivement pas un nazi. Ce que le lecteur va confirmer pendant toute la suite puisque Rorschach est quand même assez fou. Donc un modèle à deux reprises du comédien qui va lui donner son credo d'intransigeance et cela semble indiquer en creux donc les valeurs de Rorschach. D'un côté il y aurait un certain patriotisme, bon, mais cela on peut le laisser de côté, et surtout de l'autre une absence de compromis et une existence claire et marquée du bien et du mal, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais et vous devez être puni. Et cela donc semble signifier, et je crois que le lecteur au début le pense, cela semble signifier que Rorschach est dans un univers de valeurs extrêmement binaire, mais des valeurs tout de même, et c'est pourquoi, apparemment, il n'est plus le Walter Kovacs, en tout cas c'est ce qu'il dit. Par exemple, il va reprocher au Hibou 2, alors en anglais c'est You Kid, c'est un peu plus explicite, il lui reproche d'avoir lâché ses idéaux, de s'être amolli, et ainsi de suite. Contrairement au comédien, par exemple. Tout le monde se défile, donc, mais lui reste, seul lui reste, puisque le comédien est mort, et il fait ce qu'il doit être fait. Et donc il prétend, Rorschach prétend, que le masque colle totalement à sa peau. Il est le masque qu'il revêt, en fait. Alors deux exemples à ça. Alors encore une fois, on peut admirer la différence entre, d'une part, l'écrit, les phylactères, et d'autre part, l'image. Comme quoi Rorschach, en fait, se construit lui-même son identité. Il est en train de s'auto-persuader. Donc je l'ai mis, quittant mon travestissement et redevint moi-même. Alors c'est son costume qu'il met. Et donc il ne devient lui-même que quand il est autre. Quand il devient Rorschach, il devient lui-même. Donc je l'ai mis, quittant mon travestissement et redevint moi-même, sans peur, ni faiblesse, ni concupiscence. Donc vraiment, il endosse une identité de substitution. Alors, mon habit, mes chaussures, mes gants immaculés. Alors quand on regarde... ces gants sont tout sauf immaculés. Donc, vous voyez, déjà, il y a une distanciation entre l'image et le texte, parce que Rorschach dit quelque chose, prétend dire quelque chose, prétend incarner un idéal, et l'image nous dit autre chose, puisque les gants sont évidemment pas immaculés. Il y a plusieurs remarques dans Watchmen où on fait référence à son odeur corporelle forte, à son attitude de clochard, et ainsi de suite. Et donc, j'aimerais montrer justement, et je crois que cette image est un peu emblématique, que Rorschach construit largement son personnage et nous amène à croire que Rorschach est vraiment Rorschach, entier, plein, et d'une indéfectible loyauté à ses propres valeurs, malgré ses défauts quand même majeurs, qui sont la tendance à l'assassinat froid et brutal. Non, pas forcément froid, mais bon. Alors deuxième chose, justement, bon, cette folie se voit par les yeux exorbités de Rorschach. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on vient de lui retirer son visage, enfin son masque du coup, et il demande à ce qu'on lui rende son visage, c'est-à-dire le vrai soi, le vrai Rorschach qui vient d'être démasqué. Mais pour Rorschach, c'est simplement, en fait, on vient de le retravestir, c'est-à-dire on vient de le retransformer en ce qu'il n'est pas. Donc, effectivement, le comics semble appeler la lecture d'un personnage entier. Mais l'histoire des gants, là, nous dit déjà qu'il y a un décalage. Il y a une volonté de pureté, mais j'aimerais montrer que cette pureté n'est pas pleine et entière. Alors, pour comprendre rapidement quels sont les motifs de Rorschach, il faut rassembler les moments de sa biographie personnelle. Je vais essayer de montrer que Rorschach s'invente une pureté, donc. Et voilà, donc encore une fois, d'abord une fois visage plié, ainsi de suite. Le mal doit être puni. Hop. Alors, je remets cette image parce que justement. Alors, on voit pas bien parce que la couleur est pas bien passée, mais ici, il écrit dans son propre journal. Donc, les phylactères sont normalement légèrement bruns. Donc, on sait qu'il écrit dans son propre journal. Donc, là encore, ce qu'il dit, c'est quelque chose... Ce n'est pas une action qu'il est en train de faire, c'est pas un phylactère pour commenter l'action du genre Mickey arrive dans la salle. C'est c'est ce que dit Rorschach à propos de son propre credo. Donc il y a une sorte de double distance par rapport au lecteur. D'abord parce qu'on regarde une BD, et dans cette BD, on regarde un personnage se regarder, s'écrire, se faire son propre personnage. Le risque, mesuré tout de même, le risque est de se laisser avoir au jeu de Rorschach, c'est-à-dire au jeu de se représenter soi-même, de se dire soi-même, ce qui est commode lorsqu'on veut se donner une identité, puisque se dire soi-même, c'est éviter que les autres puissent vous dire votre vérité. Pourtant, malgré toutes ces valeurs, je rappelle le bien et le mal, et le mal doit être puni. C'est le chapitre 10. À un moment, il va récupérer ses affaires, bon, très bien, et tombe devant sa logeuse. Logeuse qui, bon, je vous laisse lire, mais en gros, l'a diffamé et a entaché sa réputation au moment où il a été mis en prison. Elle a témoigné contre lui, en somme. Puisqu'elle a péché contre la réputation de Rorschach, elle devrait être punie. Et c'est d'ailleurs ce qu'il lui dit. Il est impossible de pardonner, il est impossible de laisser passer. Pourtant, il voit les enfants, alors que ça lui rappelle sa propre enfance, alors évidemment enfance brutalisée, enfance parce qu'il est montré comme une bête féroce, le fils d'une catin. Cette logeuse même lui rappelle sa mère, il le dit auparavant, mais n'empêche, il cède. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit allons, nous avons ce que nous voulons, enfin bon, bref, c'est terminé, et il s'en va, sans punir le mal. Première faiblesse, pourquoi ? Première faiblesse parce que son passé, son vrai passé si on veut, ressurgit et il vient tempérer le besoin et le credo de châtiment de Rorschach. Bon, très bien. Je mettais cette image pour faire référence à la mère. Deuxième chose intéressante, il nous dit que Rorschach est né au moment où un événement traumatique s'est passé. Mais avant cet événement traumatique, on a le visage de cet enfant, donc brutalisé, comme je le disais tout à l'heure, maculé par un fruit écrasé sur sa tête. Et on voit déjà que Rorschach est présent. Si on peut faire cette analyse... le visage de l'enfant est maculé avec, vous voyez, ces motifs alors qu'ils ne sont pas encore blancs et noirs, mais le fruit forme des motifs qu'on imagine changeants puisque la pulpe et le jus doivent s'écouler sur le visage de l'enfant, et on a déjà une apparition de Rorschach. Donc l'image nous dit que ce que Rorschach dit de lui-même, ce que Rorschach invente pour se faire une personnalité, en fait existait déjà avant. Et il y a ce moment traumatique où il devient Rorschach, dit-il, mais il avait déjà endossé le masque avant. Et son idéal de blanc et de noir, de pureté, était déjà présent par avant. Alors il se radicalise avec cet événement traumatique, c'est pourquoi l'histoire que raconte Rorschach n'est pas fausse. Mais on peut souligner que Rorschach s'invente largement lui-même. Autre exemple, quand il parle de Kovacs, l'image de Rorschach est présente. Quand il parle de Rorschach, l'image de Walter Kovacs, donc son alias dans la vraie vie, est présente. Donc c'est deux cases qui se suivent. Donc il y a un chiasme ici qui nous invite à faire attention au discours, parce que l'image peut s'en détacher. Autre exemple de sentimentalisme, il va finalement se tempérer et présenter sa main en guise d'acte de paix pour enterrer la hache de guerre à son ami le hibou. Comme quoi, il est sujet à un certain sentimentalisme aussi. Ah bon ? Okay. Bon, alors ça, je ne m'y attendais pas. Bon, bah tant pis. Alors... Le Walter Kovacs donc semble refuser la contradiction, mais en même temps, alors ça c'est un peu bizarre quand même. Bon bah je vous demande de me croire sur parole.
Il manque une partie.
Ouais, apparemment. Bon c'est pas très grave, hein, mais bon c'est pas très grave. À la fin, donc ça me permettra d'aller plus vite puisque déjà le temps est compté. Alors à la fin, bon il est confronté au docteur Manhattan. Je ne sais pas si vous connaissez bien Watchmen, mais bon, en gros, Ozymandias a fait exploser New York, bon, pour aller vite, en tout cas a tué en gros des millions de New-Yorkais, bon, très bien. Pourquoi? Pour fédérer en fait le monde qui était sous la menace d'une guerre nucléaire autour des États-Unis pour que la paix s'installe. Donc en gros, Ozymandias sacrifie une partie de New York, 3 millions de personnes, on dit quand même. Pour la paix du monde. Et Walter Kovacs, ou Rorschach, comme on veut, enfin Rorschach, disons, reproche à Manhattan de laisser faire, Docteur Manhattan, qui est à peu près tout puissant, hein, reproche à Manhattan de laisser faire et dit que, et lui reproche de masquer les cadavres sous les fondations. Bon. Mais à ce moment-là, à ce moment précis où il le reproche ça, bah, parce qu'évidemment la tension est insoutenable, lui il aimerait bien aller dénoncer Ozymandias, parce que bah, on fait pas de compromis, même devant l'Armageddon, etc. Or l'Armageddon s'est produit et lui, bon, ce qu'il faudrait faire ici, c'est pas de compromis. Mais en même temps, il sent bien la tension gigantesque qu'il y a, parce que retourner, ça veut dire en fait tout détruire. Ça veut dire la guerre, ça veut dire l'Armageddon final, ça veut dire la destruction de l'humanité. Bon. Et que fait-il devant Docteur Manhattan? Il ne reste pas. Alors il lui demande de le tuer. Bon, parce qu'évidemment la contradiction est insoutenable. Mais il ne fait pas que ça. Il retire son visage de Rorschach. Et il me semble, alors ce serait plus convaincant avec les images, mais c'est pas grave. Il me semble que quand il retire son visage ou son masque, en fait c'est un aveu de faiblesse, un aveu de. À un moment la réalité me rattrape, et à un moment la réalité n'est plus blanche et noire, elle est grise. Elle est grise à ce point que même Rorschach lui-même, ne peut pas décider d'agir sur cette réalité. Et en fait, à la toute fin, juste avant qu'il meure, c'est le docteur Manhattan qui le tue. Bon, facilement, hein, il tend la main, en gros, et puis Rorschach explose. Rorschach, il me semble, à la toute fin, échoue à incarner son propre idéal, son propre moi pur. Et donc, retire son visage. Il ne peut plus supporter de porter ce visage. Et donc, retire son masque et est tué pour ne pas faire face à ses contradictions, ne pas vivre dans un monde gris. Je rappelle que le monde blanc et noir, c'était celui des Minutemen qui ont disparu. Rorschach a gardé cet idéal, mais à la fin, c'est Ozymandias qui gagne. Alors, qui gagne relativement, puisque lui-même n'est pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Il essaye de demander à Manhattan, mais Manhattan a une petite phrase énigmatique, un sourire, et s'en va dans une autre galaxie. Bon, ce qui règle le problème. Et donc, il me semble que par Rorschach, du coup, je vais conclure là-dessus, il me semble que Rorschach, qui apparaît aussi manichéen quelque part, aussi droit, même lui échoue. Et je pense que ce qu'ont voulu faire les deux auteurs, à l'auteur et le dessinateur, c'est vraiment montrer que. Il y a vraiment un propos, quoi. C'est vraiment montrer, alors d'une part que des héros qui tapent sur les gens, c'est pas crédible, dans le sens où à un moment ils sont limités par leur propre aire d'action. Même Batman n'agit que sur Gotham, alors en tout cas à l'époque. Même Superman n'agit que sur Metropolis et ainsi de suite. Et du reste, il y a des problèmes qui ne peuvent pas être réglés par des super-héros tels qu'on les connaît. Et donc ce qu'ont voulu montrer les deux auteurs, c'est à la fois cette faillite du super-héros classique, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, alors évidemment, il existe toujours des BD où le héros tape sur les gens. Bon, même dans World War Hulk, même s'il y a des motifs à l'action de Hulk, quand même, ça consiste essentiellement à ce que Hulk tape sur tout le monde et batte tout le monde, parce qu'il est très très fort et très en colère, même si par ailleurs elle a d'autres qualités, cette BD. Mais il me semble qu'on ne peut plus faire de la BD sérieuse ensuite, enfin, du comics sérieux avec des super-héros, de la même manière une fois qu'on a lu Watchmen. Et je crois que ça tient essentiellement à, alors j'ai essayé de le montrer sur Rorschach, à cette ambivalence qu'il y a entre, d'une part, le concept réel de pureté, de manichéisme qu'a Rorschach, et d'autre part, le concept. Donc idéal, pardon, et le concept réel, c'est-à-dire qu'à un moment il est confronté à une réalité qui est grise et donc il ne peut plus discerner le blanc et le noir et il est obligé de se soumettre à cette réalité. Autre chose, il est obligé de se soumettre à cette réalité quand cette réalité rappelle en lui des événements. C'est-à-dire qu'à un moment il pourrait punir sa logeuse. Voilà. Il pourrait punir sa logeuse, qui est finalement une image de la mère. Mais il ne le fait pas parce qu'il voit les enfants, visiblement, probablement il se voit en eux, et en plus, bon, il se trouve que ses enfants sont protégés par la mère. Donc à un moment, il se sent une responsabilité, c'est-à-dire que certes, on peut punir le mal, mais si ça engendre plus de mal, peut-être qu'on doit retenir son coup. Et donc là, effectivement, son air un peu mélancolique, bon, il a toujours ce visage, alors il est difficile de dire s'il est mélancolique ou pas, mais enfin, disons que pour la facilité de mon exposé, on va dire qu'il est mélancolique, un petit peu nostalgique, bon, il est obligé de retenir son poing et de retenir ses coups. Donc, pour terminer, je dirais que Rorschach, malgré son apparence de personnage extrêmement dur, extrêmement monolithique, il porte en fait en lui toutes les contradictions que peuvent avoir les super-héros, et il montre, en tout cas, je pense que c'est le propos d'Alan Moore et de Gibbons, il montre que les limites de super-héros gentils qui luttent contre le mal, parce que eux-mêmes sont forcément confrontés à des cas limites. Voilà.
Oui. Qu'est-ce qui explique selon toi cette fissure dans l'identité monolithique des super-héros, puisque tu parlais de Dark Knight dans le même temps, en 86, avec ce vieux Batman qui est bien plus violent, qui est beaucoup plus brutal avec ses ennemis, là on a Rorschach. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on questionne justement cette identité monolithique des super-héros?
Tu veux dire de l'extérieur pour les auteurs? Ouais. Je pense qu'il y a déjà eu des moments successifs. Hein. Par exemple, Spider-Man arrive. Spider-Man, donc, je pense que c'est la réflexion qu'ont les auteurs sur leur propre art. Bon, à un moment, on a Superman qui tape des méchants. Bon, très bien. Je pense qu'on arrive à un moment d'épuisement aussi. Donc, on invente Spider-Man, par exemple, qui a une faille. On va plus loin ensuite en faisant mourir sa première petite copine. Bon. Qui rend les super-héros plus simples. Et je pense que Alan Moore en fait a réfléchi à fond cette problématique, et dans le même temps dans The Dark Knight on réfléchit cette problématique, c'est-à-dire que si la copine du super-héros peut mourir, si le super-héros lui-même, son alias réel Peter Parker par exemple, est faible, alors peut-être que finalement le super-héros lui-même pourrait être faible, et du coup je pense qu'il y a une exploitation de la faille assez logique, c'est-à-dire que les super-héros ne peuvent pas tout. Après tout, Batman, il est censé pas dormir quand même, parce que le jour il est Bruce Wayne, la nuit il est Batman, ça laisse peu de temps pour dormir. Et à un moment, je pense qu'il y a, il y a un besoin de réalisme, et il y a un besoin de faire des histoires plus adultes, plus crédibles, en affrontant la difficulté qu'il y a à faire un Batman somnambule ou qui ne dort jamais. Quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais.
Je peux juste rajouter deux petites choses. C'est lié aussi au contexte, à la perception des comics qui évolue, puisque le contexte de censure va se relâcher petit à petit, et on aura beaucoup moins l'idée que les comics sont uniquement pour les enfants. Donc c'est aussi parce que on considère que du coup c'est possible de faire des choses moins américaines et moins claires parce qu'elles ne sont pas adressées aux enfants, qu'on va pouvoir aussi avoir ça. Et c'est lié également au fait que Moore est britannique, pas américain. Donc il arrive avec une vision un peu neuve de tout ça. Il est très extérieur, il n'a pas grandi forcément dans une tradition uniquement de comics. Il est aussi très influencé par la littérature, il a une vision beaucoup plus large, et il arrive pour changer aussi dans une large mesure la façon dont on perçoit
le comics. Oui, tout à fait, puisqu'il y a eu dans les comics, donc je rappelle, pendant très longtemps, interdiction tacite, plus ou moins, ou explicite, interdiction du sexe, interdiction de la violence quand elle est montrée avec trop de réalisme, et tout un tas d'interdictions comme ça. Alors que là, par exemple, dans Watchmen, il y a du sexe assez souvent, même s'il n'y a rien d'explicite, mais enfin, il y a quand même du sexe. Il y a de la violence, évidemment, et effectivement, on arrive à une époque où les Britanniques viennent renouveler un peu le comics.
Voilà. Juste, j'ai fait peut-être, ça me fait penser un truc, c'est d'un point de vue plus historique et politique, on arrive à un moment où le modèle américain est de plus en plus mis en cause, ou même au sein de la guerre froide, où il y a cette tension qu'il y avait de l'Amérique sur le sujet des bleus.
D'ailleurs, dans Watchmen, à un moment, le comédien, qui n'en rate pas une, nous dit « c'est ça le rêve américain ». Donc, c'est cette espèce de monde complètement glauque, au bord de la guerre mondiale, et il dit « mais c'est ça le rêve américain, en fait, vous êtes en train de le vivre ». Ce qui est quand même assez intéressant sur la critique qui peut être faite. Bon, évidemment, Nixon est réélu, parce que bon, il a le docteur Manhattan, donc il gagne la guerre du Vietnam avec le docteur Manhattan. Donc, il y a une critique politique, effectivement, qui ose se dire dans les comics à ce moment-là.
Je pense que outre l'aspect uchronique de Watchmen, et notamment avec Nixon réélu, on a aussi justement le contexte géopolitique de l'époque. On a en plus un auteur de gauche qui est totalement opposé à l'axe thatchero-reaganien. Et donc du coup, c'est aussi une manière d'avoir une position forte par rapport à, et puis par rapport aussi à toute la digestion de ces années comics. Ça a été un énorme lecteur de comics. Il a découvert ça dans son plus jeune âge, même si effectivement il a été aussi, il a aussi digéré bien d'autres influences. Mais c'est aussi un auteur qui a une volonté de traiter de questions politiques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que tu disais comment traiter ensuite de manière sérieuse les super-héros après Watchmen, c'est vrai qu'il a fallu attendre ensuite des années avant de voir des choses comme Authority ou d'autres œuvres d'Ellis, par exemple, qui ont essayé justement d'apporter eux-mêmes leur discussion autour de la politique et des super-héros. Et quand tu prenais l'exemple de Civil War, c'est un bon exemple. Aussi bien pour Authority... Non, mais c'est l'exemple... On est d'accord. C'est vrai que ça a été, pour Bendis, la seule fois où il a vraiment utilisé cette espèce de tribune pour discuter des lois votées post-11 septembre 2001. Et de la même manière, dans Authority, c'était une espèce de, là aussi, digestion. Aussi bien les personnages de Watchmen étaient les personnages normalement de Charlton Comics qui auraient dû être utilisés. Aussi bien pour Authority, on a une figure qui s'approche de la figure solaire de Superman, une figure qui s'approche, le Midnighter, qui est un équivalent fasciste de Batman, etc. Et pourtant, ils en font un couple gay, et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment toute une autre discussion intéressante.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que je parlais de la différence entre le concept réel, enfin, le concept idéal et le concept réel, c'est-à-dire le concept qui s'imagine pur, en fait, la liberté, ce que vous voulez. Dans Civil War, il y a Captain America qui est la figure de la rébellion, alors qu'il est censé incarner les valeurs américaines. Et donc, en fait, il les incarne seulement contre l'Amérique. Enfin, en tout cas, contre une certaine Amérique. Et là, il y a un décalage intéressant, il me semble, entre, à un moment, on a des valeurs, mais ces valeurs ne peuvent plus s'incarner dans ceux qui sont censés les représenter. Et donc, ils se rebellent contre l'Amérique, et c'est Iron Man qui sert d'adversaire. Et je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes après, effectivement. Je ne sais pas. Madame ?
Merci. Alors j'ai raté le début de ton intervention, mais peut-être on a parlé. Pourquoi il s'appelle Rorschach ? Je t'ai posé la question.
Il y a
deux choses qui sont très importantes sur la problématique du masque, justement.
Alors Rorschach, attends, peut-être qu'on voit. Normalement, j'en ai une.
Tout bêtement, hein.
Oui, bah c'est le test. Je trouve pas la. Mais bon, le test de Rorschach. D'une part, bon, ça c'est visible parce que le psychiatre lui fait passer le test de Rorschach deux fois d'ailleurs. Donc test de Rorschach pour ça, parce que il y a ses taches. On le voit plusieurs fois. À un moment, il est dans ce genre de bar restaurant. Il attend devant une boîte aux lettres et il fait le test. En fait, il met une tache de sauce sur le menu. Il replie et du coup, on a la tache symétrique. Bon. Après, on peut avoir des interprétations. Alors, je trouve pas. Bon, c'est quand même un peu fou ça. Mais voilà, le test de Rorschach à gauche. Et puis après, on peut avoir des interprétations. À un moment, on a cette même image là, avec le blanc et le noir. Et il y a une référence au blanc et noir.
Mais justement, par rapport au test de Rorschach et à la psychanalyse, c'est l'idée aussi que le masque ou le voile agit comme un révélateur, comme on a dans la photographie. C'est le même mécanisme. C'est-à-dire que quand il est lui-même comme ça, il est complètement objectivé par le regard des autres, et c'est un individu qui subit les qualités que les autres projettent sur lui.
Bien sûr, oui.
Alors qu'une fois qu'il pose son masque, en fait, il est directement en prise avec la personnalité profonde et ses pulsions.
Alors oui et non quand même, parce que le masque change d'apparence quand même au fur et à mesure selon ses émotions. Alors il y a deux trois fois, par exemple, en fait, la première fois au moment de l'événement traumatique là, bon, en gros, il se rend compte qu'une petite fille a été kidnappée, capturée, tuée et donnée à manger aux chiens, et on a une espèce d'expression qui nous suggère la surprise sur le masque de Rorschach. Donc il y a quand même, c'est censé révéler quand même ses pulsions profondes, et il le montre à plusieurs fois avec des parallèles entre des ombres et les taches de son visage, et chaque tache lui fait penser à un moment, alors bon, il n'y a pas tout le test de Rorschach, mais chaque tâche lui fait penser à un moment de son existence passée. Donc il y a quand même des renvois entre la figure Walter Kovacs, si on veut, et Rorschach. Mais effectivement, vous avez raison. Sur l'identité projetée, sur l'objectivité de sa propre identité, sur le moi construit, etc.
Si je peux revenir juste sur le côté vraiment plastique de Watchmen, il y a plusieurs, en regardant les images que tu projetais, j'ai revu des exemples de cases dans lesquelles on est, si je peux dire, à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit les événements à travers les yeux de Rorschach. Ça, c'est un truc que Calamo fait beaucoup, notamment dans Promenade, il y a quasiment constamment ça, où on est dans la tête du tueur psychopathe et on voit ses mains et on voit ce qu'il fait à travers ses yeux. Et j'avais l'impression qu'en fait, c'était aussi une sorte de masque, en fait, puisque tu endosses, en quelque sorte, le masque de Rorschach. Voilà, c'est par exemple ça, le masque perçu comme objet de vision, enfin, objet qui donne une compétence de vision. Voilà, donc c'est pas une question, c'est une remarque sur le fait que cette technique qui est courante chez Moore est peut-être particulièrement pertinente dans Watchmen et dans le contexte de l'utilisation.
Oui, puis je pense qu'il y a une dimension largement spéculaire dans Watchmen. Enfin, là, par exemple, il se regarde, en fait. Enfin, il se regarde, se regardant. Enfin, et le lecteur, en plus, vient rajouter un regard par-dessus. Rorschach qui écrit dans son journal, etc. Oui, je pense qu'il y a un empilement de signification qui est tout à fait utilisé dans Watchmen, je pense.
Oui, et pour finir sur le test de Rorschach, la notion de la symétrie n'est pas innocente non plus, parce que dans Watchmen, c'est un thème récurrent. Le chapitre 5 s'appelle Fearful Symmetry, qui est le titre d'un poème de Blake, une poème de Blake, et la structure en fait est refermée sur elle-même.
Oui, relativement. Oui, même tout Watchmen en fait.
C'est aussi pour ça que le test de Watchmen.